C'est moi qui vous ai choisi. En Jean 15, 16, on a une affirmation étonnante. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et on voit dans ce passage que ce n'est pas un choix véritablement. Il y a une élection, et cette élection est faite par Jésus, mais en fait, l'élection vient du Père. C'est pour ça qu'en Luc 6, 12, 13, nous avons « Or, il arrivera dans ces jours-là qu'il s'en alla sur la montagne pour prier, il passa toute la nuit à prier Dieu, et quand le jour fut venu, il appela à lui ses disciples, et il en choisit 12. » C'est-à-dire que Jésus choisit selon la volonté du Père, selon l'élection du Père. C'est pour ça que Jean 15, 16 se termine « Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne, parce que tout ramène au Père, à l'image du Père. » En fait, notre élection est bien résumée en Éphésiens 4, versets 1 à 5. « Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde. » Il y a une élection qui est bien avant le fait que nous soyons nés d'une femme sur la terre. « Dans l'amour, et ça continue, nous ayant prédestinés pour nous adopter par lui, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » La volonté de Dieu est toujours première, adopté par lui, par Jésus-Christ. Et là, on voit l'articulation, d'abord le Père, puis Jésus-Christ. Et quand on comprend cette élection, qui se retrouve à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'ont fait les hommes. Quand Constantin, empereur romain, a dit devenir chrétien, en fait, il a dit « je suis représentant de Dieu sur terre », en tant qu'empereur, et donc tous ceux qui seront sur mon royaume, c'est-à-dire tout l'Empire romain, ils seront comme moi, ils seront chrétiens, obligatoires. Il n'y a plus la moindre élection. Et effectivement, il y a eu un mélange avec toutes les fois païennes qu'on retrouve encore dans la foi catholique, mais qu'on retrouve aussi dans certains mouvements charismatiques également, puisqu'il n'y a plus d'élection là-bas. Ce n'est plus Dieu qui choisit, ce sont les hommes. En France, par exemple, ça a été pareil. Dans toute une époque, la foi catholique était obligatoire. Tout homme qui vivait en France devait faire selon la foi catholique. Et d'ailleurs, le recensement était fait sur le nombre de baptêmes, exclusivement, par exemple. Donc, très rapidement, les hommes ont supprimé cette élection divine en disant « toi, tu seras comme je te dis ». Et ça a été un instrument, en fait, de pouvoir, ce qui a détruit la volonté de Dieu. On a un critère d'élection en Jacques 2,5. « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour les faire riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ?» Donc, c'est un critère, effectivement, c'est-à-dire que ce ne sont pas les hommes les plus en vue selon le monde qui ont été choisis, puisque Jésus, sur la montagne, nous dit bien « heureux sont les pauvres ». Et effectivement, par exemple, David était celui qui a été le plus jeune dans l'Ancien Testament, qui a été choisi par Dieu, le plus jeune et qui gardait le troupeau. Paul était probablement le pire selon les yeux humains pour être chrétien, pour implanter des églises, puisqu'il était celui qui les persécutait. Pierre, il était impulsif en fait. Pierre n'était pas du tout, selon les yeux du monde, un homme pour avoir une place prépondérante dans les premières églises. On l'a en Jean 18-10, « Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, l'attira et frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. » C'est-à-dire que l'élection est faite sur des critères tout à fait opposés aux critères du monde, ce qui est en opposition totale avec beaucoup de mouvements pentecôtistes qui disent qu'il faut briller dans le monde, dans le sens avoir une réussite que tout le monde voit. Non, non, c'est le critère inverse que choisit Dieu, en fait. Et cette élection se fait bien avant la naissance terrestre, comme on le voit avec le prophète Jérémie, Jérémie 1, versets 4 à 5. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant de te former dans les flancs de ta mère, je te connaissais. » Pareil, l'élection se fait bien avant la naissance terrestre. « Et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai consacré et je t'ai établi prophète des nations. » Mais Jésus était pareil. On l'a en Colossiens, versets 15 à 20, « Lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, parce qu'en lui ont été créées toutes choses. » Il était bien avant, bien avant la création du monde, était déjà Jésus. Après, Jésus est arrivé sur terre par une femme. Et il est dit plus loin, en lui et avant toute chose, et il est dit plus loin, ayant fait par lui la paix par le sang de sa croix. Et ça montre bien un rôle très important de Jésus, c'est par la croix, il ouvre le ciel et il purifie. Donc, qui nous sommes, en fait, véritablement, ça a été déterminé il y a bien longtemps si nous avons vraiment été élus. Si on dit si on a été vraiment élu, c'est parce qu'on voit énormément qu'ils le font par tradition, parce qu'on leur a dit un jour de prendre une décision pour mille raisons, mais a-t-on vraiment été élu? Parce qu'en fait, il y a une élection qui se fait, et qui nous sommes a été déterminé il y a bien longtemps, et en fait, on passe notre vie terrestre à nous débarrasser en fait des idées du monde, puisque le prince du monde, c'est le mal, pour retrouver en fait notre destinée, ce pourquoi nous avons été faits. Et c'est ça notre combat spirituel contre la chair, contre l'adversaire, contre les fausses doctrines, contre le mensonge, parce qu'il est permanent pour retrouver notre destinée, parce que c'est comme ça que Dieu nous a pensé. S'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de destinée en fait. Hein. On peut passer notre vie dans les églises, ça ne change rien du tout, parce qu'en fait, on n'a pas été élu dans ce cas-là. Et le Saint-Esprit qui permet cette transformation, il faut bien voir que dans le Nouveau Testament, il est donné par Dieu à Jésus. Même si c'est Jésus qui, après, le répand, c'est toujours Dieu qui est premier, à la fois dans l'élection et dans le fait de donner le Saint-Esprit. C'est expliqué à plusieurs reprises, notamment en Actes 2.33, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, souvenez-vous, c'est par la puissance du Saint-Esprit que Dieu a ressuscité Jésus. Ce dont nous sommes témoins, ayant donc été élevé par la droite de Dieu, et ayant reçu du Père l'Esprit-Saint, c'est toujours Dieu qui en fait donne l'Esprit-Saint, même si Jésus peut le transmettre, qu'il avait promis, il a répandu de ce que vous-même aussi voyez et entendez. Donc Jésus reçoit du Père l'Esprit-Saint qu'il peut transmettre, mais c'est toujours le Père qui donne l'Esprit-Saint. C'est Dieu qui donne son Esprit, ce qui est logique. En Jean 7, versets 38 à 39, voilà une affirmation qu'on a de Jésus, on voit sa transmission d'Esprit-Saint. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Or, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. » Et l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, je rappelle que quand Jésus parle de l'Esprit, il dit « Je prierai le Père pour qu'il vous envoie l'Esprit. » Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Voilà toute une partie tellement importante du ministère de Jésus. L'Esprit n'est distribué que quand il ouvre le ciel en s'offrant au sacrifice pour la croix, pour purifier, pour racheter les péchés. C'est pour ça que cette affirmation en Actes 2, versets 16 à 21, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, il arrivera dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours qui ont commencé à cette époque, dit Dieu que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Voilà, c'est bien Dieu qui répand l'esprit. Mais dans cette affirmation, on voit que ça n'est pas véritablement conditionnel. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc il est possible de recevoir l'esprit de façon inconditionnelle. Après, il y a les fruits, et ça continue. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc il y a à la fois, je répandrai de mon esprit sur qui veut, et à la fois, mes serviteurs, c'est-à-dire ceux qui servent Dieu, comment? Par l'obéissance à Jésus, en suivant ses commandements. Et là, on voit qu'il y a des fruits comme le fait de prophétiser. Et là, cette prophétie continue. « Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, des signes sur la terre, du sang et du feu, une grande vapeur de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres, la lune en sang, afin que vienne le jour grand et éclatant du Seigneur. » Là, en une phrase, on a un raccourci des événements qui sont expliqués en Apocalypse. Et ça se termine en « Il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc là, on a un raccourci temporel de l'Apocalypse, de la fin des temps, au même titre que quand Jésus fait également des raccourcis, quand il parle de l'Esprit, on a plusieurs enseignements qui sont en fait des raccourcis temporels, ce qui ne veut pas dire que tout va se passer automatiquement, mais c'est pour montrer où Dieu veut aller. Alors, il faut faire attention avec « invoquer le nom du Seigneur », ce n'est pas une formule magique. Le nom du Seigneur, c'est qui il est. C'est-à-dire que quand on croit véritablement qu'il est fils de Dieu, qu'il est l'image du Père, et s'il est l'image de Père, c'est équivalent à obéir à tous ses commandements. Ce n'est pas juste une formule. À un moment donné, en 1 Corinthiens 5, 4, Paul dit « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc c'est le nom, c'est tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est, tout ce qu'il enseigne, et le fait qu'il est l'image du Père, donc nous lui obéissons. Et c'est tout un ensemble, bien sûr, c'est pas juste une simple invocation comme on invoque une divinité. Et comparé, bien sûr, les églises ont tout de suite dit ouais, « il suffit d'acclamer, d'invoquer, tout va bien. » Et on voit dans les églises dimanche matin, dans certains milieux, quand on dit « acclamer Jésus », tout le monde applaudit. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est une parodie. C'est, ça a à voir avec l'obéissance et l'imitation de Jésus. On voit un autre raccourci temporel en Jean 4, 14, quand Jésus nous dit « Celui qui boira, souvenez-vous, c'est la Samaritaine, de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante jusqu'à la vie éternelle. » Ça ne veut pas dire que c'est automatique. Ça veut dire que c'est cette source d'eau d'esprit qui va lui permettre la transformation jusqu'à la vie éternelle. Lui permettre, ça ne veut pas dire qu'elle va y arriver. Ça veut dire que sans l'esprit, vous ne pouvez rien faire. Mais également, on va le voir, sans l'imitation de Jésus, vous ne pouvez également rien faire, puisqu'il est l'image de Dieu. Donc, on voit qu'à plusieurs reprises, il y a des affirmations dans le Nouveau Testament où Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui le demande sans condition. Sans condition, même par rapport à Jésus. Et c'est aussi un enseignement de Jésus. Demandez. Demandez, il vous sera donné. Vous qui ne donnez pas des mauvaises choses à vos enfants, donc mon Père qui est dans les cieux vous donnera effectivement l'Esprit si vous le demandez. Donc, on a cette possibilité-là par, en fait, le ministère de Jésus, parce qu'il a ouvert le ciel. Puisqu'on est dans la fin des temps, on a une possibilité de demander, en fait, directement l'Esprit. Ça, c'est extraordinaire. Et on l'a également en Apocalypse 22, 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» Et que celui qui entend, dise « viens », et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Il n'y a pas de condition. Celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc, véritablement, c'est parce que Jésus a ouvert le ciel, parce qu'on est dans la fin des temps, parce qu'il nous montre cette image de Dieu, que nous avons cette possibilité d'accéder directement à l'Esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'après, il ne faut pas être image de Jésus qui est image de Dieu. C'est, tout ça est complémentaire, en fait. Donc, on voit que dans tout le ministère de Jésus, il a en fait reconnu l'action du Saint-Esprit, qui est première, l'élection dans les personnes. C'est ce que Jésus fait. Par exemple, en Matthieu 16, versets 16 à 17, « Simon-Pierre répondant lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et Jésus répondant lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc, Jésus passe son temps à reconnaître l'élection de l'Esprit dans les personnes. C'est pour ça qu'il répète souvent la phrase, d'où la phrase « c'est ta foi qui t'a guéri ». C'est-à-dire, c'est l'action du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui a permis tout cela. Et en fait, très rapidement, les hommes ont fait l'inverse, c'est-à-dire exactement ce que vous voyez encore le dimanche matin. C'est ce que tu dis qui compte. C'est ce que tu dis en chantant. Tu dis « Jésus, je t'aime. Jésus, je vais t'obéir. Jésus, t'es le plus grand. » Et quand est-ce qu'on commence à être à l'imitation de Jésus? On ne le fait pas. Donc, c'est vraiment l'inverse de ce que nous a enseigné Jésus. Et ça se fait tous les dimanches matins. Parce que quand Jésus nous dit « c'est ta foi qui t'a guéri », ce n'est pas une décision. C'est vraiment une action d'esprit. On a la preuve de ça en Romains 12, 3. L'enseignement dit « garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée ». Si Dieu t'a donné une mesure de foi, c'est bien Dieu qui te donne également la foi. Ça fait partie de l'élection. En fait, le don de foi, c'est aussi un fruit de l'esprit. C'est toujours l'action de l'esprit, donc Dieu qui est premier. Et les hommes ont bien sûr tout de suite changé ça en faisant une décision. Prends la décision de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, ça tue effectivement l'action de l'esprit. C'est une décision humaine, comme prends la décision de suivre telle ou telle partie. Et là, tu dois faire une petite phrase aussi. Pareil, mais ce n'est pas rien à voir avec ce que fait Dieu avec l'élection de l'esprit. Et on voit un rapport entre la reconnaissance de Jésus et le Saint-Esprit en Actes 19, 2, 6. « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. Il leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé d'un baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, et qu'ayant entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et après que Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Et en Marc, on l'a, où le fameux baptême de Jean, il le dit, « Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Donc, on voit que Jésus ouvre le ciel et permet l'arrivée de l'Esprit. Mais c'est aussi lui, c'est la deuxième partie de son mystère qui est l'image de Dieu, et on doit effectivement grandir en lui. C'est-à-dire qu'on a deux modèles. Premier modèle, Jésus ouvre le ciel et donne le Saint-Esprit. On voit en acte, effectivement, d'abord on reconnaît l'ensemble du ministère de Jésus, qu'il est son enseignement, puis l'Esprit vient. Dans cet ordre-là, Jésus, puis Saint-Esprit. Mais on est dans la fin des temps, c'est-à-dire que le plus souvent, l'autre modèle est l'autre modèle indiqué. D'abord le Saint-Esprit, qui nous conduit vers Jésus pour être à l'image de Dieu. C'est le modèle de la fin des temps. Parce que sans cette connaissance-là, nous ne pouvons pas grandir dans le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on entend Jésus dire « il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus », parce qu'il faut les deux. Il faut à la fois recevoir le Saint-Esprit et il faut à la fois être à l'image de Jésus. Et de nos jours, certains reçoivent le Saint-Esprit, mais ne savent même pas ce que c'est que l'image d'être à l'image de Jésus, ce qui est la doctrine la plus courante dans les églises. D'autres s'intéressent à Jésus, mais n'ont pas la même notion du Saint-Esprit, parce qu'en fait, ils n'ont pas été vraiment élus. Et les deux donnent la même chose, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas véritablement de don spirituel. En 2 Pierre 3, il nous explique l'articulation. Puisque sa divine puissance... Alors, 2 Pierre 3, 1 à 4. Puisque sa divine puissance nous a fait don de ce qui contribue à la vie. Sa divine puissance, par l'Esprit. Par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et vertu. Voilà, connaissance. Là, c'est on apprend à être à l'image de Christ, on suit tous ses enseignements. Donc, il y a Saint-Esprit, et on est à l'imitation du Christ, lequel vous ont donné les promesses, afin que par leurs moyens, vous deveniez participants de la nature divine. Et là, on grandit en Christ, en suivant ses enseignements, on grandit dans l'Esprit, et effectivement, on est à l'image de Dieu. Donc, on voit bien ce qu'est notre destin, être à l'image de Dieu. Et on finit par la promesse en Colossiens, Colossiens 3, 10 à 12, « Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance. » Toujours pareil, la connaissance, l'Esprit et l'application de l'enseignement de Jésus, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Et il continue, « Mais Christ est tout en tous, ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, il y a bien une élection. »